Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International sur RFI, votre émission quotidienne qui vous parle de football. Et aujourd'hui, eh bien, nous commencerons en Angleterre. Ça twist à Tottenham. En quelques heures, Mauricio Pochettino a été viré et remplacé par José Mourinho, le chantre du beau jeu qui avait emmené les Spurs en finale de Ligue des Champions il y a 6 mois, mais qui n'est que 14e de Première Ligue, laisse le champ libre au chantre de l'ultra-réalisme. Comment comprendre cette double décision des dirigeants de Tottenham? Vous nous aiderez à comprendre, Salim Boumgali?
Oui, si on arrive vraiment à le comprendre.
Si on arrive à décoder.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour. La CAN 2021 dans le viseur des grandes nations, mais aussi désormais des plus petites. Le passage à 24 participants motive les moins expérimentés qui s'aguerrissent comme Madagascar, la Mauritanie ou les Comores. Alors que les grands noms comme la Côte d'Ivoire en pâtissent, quel bilan de ces 2 premières journées? Franck Simon nous éclairera sur ce sujet. Bonjour Franck.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et vous serez aidé par Éric Chorin, la rédaction qui arrive. 20 nations qualifiées pour l'Euro 2020, la 20e a gagné son ticket, c'est le pays de Galles, de Gareth Bale. Mais il reste encore 4 places qui feront l'objet d'un barrage où 12 équipes s'écharperont pour aboutir à de drôles de chapeaux. Ni les champions du monde, ni les champions d'Europe en titre ne seront tête de série. C'est vraiment bizarre cette UEFA, non Marc Lebras?
Bonjour Annie, bonjour à tous. C'est surprenant.
Surprenant.
Je crois qu'on n'a pas fini.
On n'a pas fini.
On va rire quand il y aura tous les pays, les 12 pays. Enfin voilà.
Nos confrères de l'équipe sont très drôles en disant des barrages bien mal barrés. Donc effectivement, c'est un peu compliqué à décoder, mais nous y arriverons. Et puis alors nous avons un personnage qui est physiquement dans le studio, parce que d'habitude il y est par la voix, grâce au truchement de la technique. Mais aujourd'hui il est là physiquement et on est content de le recevoir. Il passe de temps en temps. François David, l'Espagnol, le Catalan. Bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Très
Merci.
Content d'être là.
Oui, merci d'être avec nous et j'espère que vous allez comme ça saupoudrer un peu tous les sujets de votre savoir et de toute votre connaissance footballistique. Radio Foot, c'est parti.
We have top players, and I'm sorry, I'm a bit arrogant. We have a top manager. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Nobody asked me my team. Do you want to know my team tomorrow? So why don't you ask me?
What's your team tomorrow?
It's too late. I'm sorry.
I wish that it can be 25% as successful as myself.
Everybody wants to play. Nobody is doing like what some journalists do. When they write bullshit, the next press conference, they don't come. My players don't do that.
Coucou, me revoilà, pourrait-on dire. José Mourinho, alias donc The Special One, alias The Happy One, alias Top Manager, comme vous venez de l'écouter dans sa propre voix. Il revient dans un club de Londres, en Première Ligue, après Chelsea, par deux fois viré, après Manchester United, viré il y a 11 mois. Le voilà sur le banc des Spurs, nommé 11 heures après le licenciement de Mauricio Pochettino, l'Argentin, qui pourtant avait conduit Tottenham à une historique finale de Ligue des Champions, finale perdue certes, mais qualification historique pour le club londonien de White Hart Lane. José Mourinho débarque pour plusieurs saisons, a priori, hein, n'est-ce pas? Contrat signé jusqu'en 2023 pour le double d'ailleurs en salaire de ce que recevait Mauricio Pochettino, c'est ce qu'on croit savoir.
C'est ça, exactement. Environ 17 millions d'euros, tout à fait.
17 millions d'euros l'année.
Ah, c'est différent.
Oui, en livre sterling, n'est-ce pas? Mais après le Brexit, on ne sait pas ce que vaudra cette livre sterling. Et ce supporter, écoutez-le, rencontré par Sky Sport, hein, nos confrères anglais à Londres tout à l'heure, eh bien, il semble super content.
On voulait Mourinho en Première Ligue. C'est un manager fantastique. Il a un sacré caractère. Parfois, il peut avoir ses hauts et ses bas, mais c'est un gagnant né. Il remporte des trophées. Nous n'en avons pas de trophées. Maintenant, à Tottenham, avec l'histoire qui est la nôtre, nous avons un besoin urgent de remporter quelque chose.
Elle est dure, l'histoire, pour les sélectionneurs et pour les entraîneurs. Hein. Là, on balaye Pochettino d'un revers de main. En tout cas, ce supporter, d'abord, est-ce qu'il est, selon vous, Salim, représentatif de ce qui se passe à Londres et autour de Tottenham aujourd'hui?
Non, pas du tout, hein, parce que quand on voit, alors, et
c'est un copain de Mourinho, en fait.
Sans doute, parce que quand on voit, et ce n'est qu'un aperçu, les réseaux sociaux, hein, ce n'est pas la vérité absolue, mais quand on les observe, quand on lit également les espaces de lecteurs sur les différents sites de titres de presse anglais, les supporters de Tottenham qui parlent, eux, sont mécontents globalement, hein. Mécontents notamment quand ils se souviennent d'une parole de José Mourinho, c'était en 2015, lorsqu'à l'époque, il expliquait que jamais il n'entraînerait Tottenham parce qu'il est trop fan et il apprécie trop Chelsea pour pouvoir entraîner Tottenham.
Il aime trop les fans de Chelsea.
D'ailleurs, cela a été ressorti par la presse anglaise forcément aujourd'hui, ces dernières heures.
Et même française, donc.
Et encore plus, les fans de Tottenham sont mécontents de ce genre de choses, comme quoi, à l'époque, peut-être que Mourinho se trouvait trop supérieur pour Tottenham, et à l'époque, Tottenham était peut-être trop inférieur, peut-être que les niveaux se sont un petit peu nivelés, justement. Donc, non, les supporters sont globalement mécontents de ça. C'est vrai que tout ce qu'a apporté Pochettino, ils vont en parler, même s'il n'y a pas eu de titre, c'est un fait, et on peut pas le nier, il y a eu quand même un regard différent posé sur Tottenham ces dernières saisons, avec des qualifications régulières en Ligue des Champions,
souvent
un jeu pratiqué.
Deuxième de,
voilà,
ou troisième de la
top
première
3,
ligue.
Top 3, top 4 de première ligue. Un jeu plutôt sympa amené avec Pochettino. Et au final, on a l'impression qu'on va balayer tout ça pour revenir au pragmatique. Alors, vous allez me dire, le pragmatique, ça peut apporter des titres aussi. Mais on change totalement de manière de penser à Tottenham.
Oui, on change de philosophie. Ça vous surprend? Parce que, il y a certains entraîneurs comme ça, Marc Libra. Et du coup, on les annonce un peu partout. Mais là, ça a pris quelques heures. Et tout d'un coup, boum, Mourinho à Londres.
Depuis Rudy Garcia à Lyon, je suis plus surpris du tout, Annie.
Après, ça n'a pas été négocié ces dernières heures, hein, parce que ça se négocie pas en 5 heures, on le sait bien.
Ça a été prévu en amont, sûrement 2 ou 3 noms.
Ouais. Il y a eu une période internationale qui a été propice au club pour changer.
Oui, après, je pense
que
le match du Bayern a fait extrêmement mal, puisque c'est déculotté.
Ils avaient perdu
7-2.
Mais ils sont qualifiés pour déjà le prochain tour.
Oui, ils sont qualifiés, mais Mourinho, tout est calculé, puisqu'il me semble qu'en septembre, il fait un article dans le Télégraphe où il explique tranquillement qu'il s'est préparé, il a pris ses vacances avec sa femme, la famille au mois de juin, pour que peut-être en juillet il y ait une prépa et le début du championnat au mois d'août. Au mois d'août, il se rend compte que, ah ben mince, j'ai pas de
personne
club.
Personne l'a appelé.
J'ai pas de club. Je réfléchis. Enfin, il n'y a pas de club à son niveau, il dit. Et ça, c'est l'article qui a été fait entre le 15 et le 20 septembre. Il dit, bon, ben alors, vous savez quoi, je vais attendre septembre, octobre, novembre parce qu'il y en a un qui va se cracher. Et il faut que ça m'intéresse, par contre. Si ça m'intéresse pas, et l'histoire, elle est magnifique.
Bayern n'intéressait pas.
Mais l'histoire, elle est magnifique parce que il a compté avant ce qui allait se passer. Et là, toc, toc. Il revient pas. Non, mais c'est magnifique.
Mais pour compléter les propos de Marc, c'est vrai, énorme. Ce qui était surprenant ces dernières semaines, derniers mois même, de la part de José Mourinho, c'est qu'on l'entendait beaucoup. Il parlait beaucoup dans la presse,
il est venu
à la
France,
télévision.
Il
se montrait à Lille, d'ailleurs, on en parlera de
suite.
C'était
pas pour rien, c'était pas pour Galtier.
Exactement. Ouais. Donc, au final, il parlait beaucoup pour dire coucou, je suis là, les gars, dès qu'il y a un grand club. Mais il le dit encore plus. D'habitude, un homme et un entraîneur comme Mourinho n'a pas besoin de dire.
On l'appelle en sauveur.
Oui, mais c'est étonnant quand même d'avoir Mourinho à cette position-là et dire, hey, les gars, je suis là, alors qu'il n'a pas besoin de le dire. Mais là, il le montre encore plus, et m'oubliez pas, je suis là. Et
puis preuve en est que
François David, que le
verre était un petit peu dans le fruit. Vous vous souvenez que quand Jean-Michel Aulas avait appelé José Mourinho en disant, voilà, ça nous intéresserait, il a dit, ah, je suis déjà en contact avec un club anglais. Donc
c'est
maintenant, le voile s'est dévoilé.
Exactement.
On sait que ce club anglais était Tottenham. Alors, je suis complètement d'accord avec Salim. Changement de philosophie, mais à 180 degrés là maintenant.
Alors François David connaît bien Pochettino pour une chose, c'est qu'il a entraîné notamment l'Espagnol de Barcelone.
Où il a eu de bons résultats, ouais. avec les mêmes produits entre guillemets, c'est-à-dire on fait jouer les jeunes, on dépense pas beaucoup d'argent, on s'appuie sur la formation.
On met des joueurs en avant.
On met des joueurs en avant et chose qu'il avait fait avec des moyens encore plus intéressants avec Tottenham. Alors maintenant que Mourinho, ça va être complètement différent. On va acheter à tout va les jeunes. Je suis pas sûr qu'on va les revoir. Pas sûr qu'on va les revoir. Place à l'expérience, place à l'effet immédiat pour gagner quelques titres tout de suite. Maintenant, et on va voir ce que ça va donner. Mais on sait que généralement depuis 3-4 ans, sur la durée, Mourinho, c'est pas trop ça.
Exactement. Franck Simon.
Place à un égo boursouflé avec José Mourinho, c'est bien. C'est ce dont avait besoin la première ligue. C'est vrai qu'on était jusqu'à présent.
On s'ennuyait, c'est ça.
On s'ennuyait de voir surtout du football et souvent du bon football.
Exactement.
Là, on a le retour d'une grande gueule qui va sans doute amuser les gazettes métier, voilà, et qui a su se placer.
Pas forcément nous. Hein.
Moi, je dis en revanche, je suis club de football en Europe ou ailleurs. Tout de suite, je me mets sur Pochettino parce que ouais. Voilà, c'est le genre de technicien qu'on a envie de revoir très rapidement. J'espère qu'il manquera.
Mais
ouais, voilà, je pense qu'il manquera pas d'offres. En revanche, sur Mourinho, vous me permettrez d'être très amer et comme je le suis depuis déjà plusieurs mois, parce que je pense que c'est devenu maintenant simplement la caricature
de lui-même.
Special One, et en tant que technicien, il m'intéresse toujours dans ce milieu du football, en tant qu'homme, mais absolument pas, et franchement, je ne le regrettais pas, je regrettais même pas qu'il soit là, qu'il soit plus là, quoi, voilà. Et parce que vous voyez, c'est tout de suite sur quoi vous avez appuyé tout à l'heure. L'argent, le pognon.
Voilà. Oui, alors, voilà.
C'est pas une ambition d'aller à Tottenham, hein. C'est pas une
grosse
ambition. Il doit
avoir un compte bien garni, mais c'est vrai que on sait qu'il est très populaire parmi nos auditeurs. José Mourinho, Rémi aussi l'adore. Ouais. C'est un personnage certes charismatique. Alors on a entendu tout à l'heure quelques petites phrases. Et son palmarès quand même, Salim, rappelons-le, parce que c'est un triplé avec Porto à l'époque, le FC Porto, l'équipe donc du Portugal.
Donnez les années à Nice surtout, les saisons, ouais. C'est ça qui est important. Alors,
je suis d'accord avec vous, c'était 2004.
Il y a plus de 15 ans. Hein. Ouais.
2004. Ben,
j'y étais. Donc,
il avait gagné aussi une Ligue Europa avec eux, et puis donc Ligue des Champions, Championnat et Coupe. Après, il y a le triplé avec l'Inter, si je ne me trompe pas, c'est 2010 ou 2009, non ?
2010.
Avec l'Inter, bon, déjà, on est monté un peu en grade, même si entre-temps, il y a eu Chelsea, dont il est parti. Et puis, il y a la Ligue Europa récemment avec Manchester United.
La première année, en plus.
Oui, mais il a quand même gagné une Liga avec le Real Madrid. C'était quand même une période compliquée en face avec le Barça de Guardiola, et une Coupe du Roi en finale contre le Barça.
Avec un peu de moyens.
François, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire déjà il achète des gens et très cher, et on se souvient ce qu'il a fait à Manchester United. On va y venir.
Il a compilé.
Mais on se souvient aussi que c'est un personnage qui, alors lui applique à la lettre pour diviser, pour régner, il divise. Et on se souvient dans le vestiaire du Barça, du Real, pardon, quand il monte tout le monde contre Casillas, qu'il a à peu près brisé sur le banc.
Vous me rappelez
et dans
ça,
les
là,
cages.
J'en ai des sueurs froides.
Mais oui,
c'est scandaleux. C'est
quelqu'un qui quand même divise, qui
mais
c'est très
ça,
violent.
Mais c'est pour ça, Annie, que quand le nom de Mourinho est apparu il y a quelques semaines du côté du Real pour remplacer éventuellement Zidane, le premier à être monté au créneau, Sergio Ramos, qui lui a quand même connu les années Mourinho, ouais, où ça allait mal. Lui, il était quand même assez proche de Casillas. Il avait affronté Mourinho. Il a dit non.
Un éclair de lucidité.
Jamais. Nous, on veut Zizou.
Juste, ouais, parlez-moi, là, depuis Salim, quelques minutes, on parle du personnage José Mourinho, on parle de son caractère.
Comment dissocier le personnage
du coach aussi,
et l'entraîneur,
hein, ouais. Ultra dépensier, égo boursouflé,
ses
joueurs passent après lui.
Égo, dépense beaucoup, etc. Mais quand même, les premières années, à chaque fois qu'il arrive dans un club,
tu nous emmènes
dans
la préhistoire, Salim.
Non, mais c'est un fait. Non, mais même à Manchester, c'était pas la préhistoire, il n'y a pas si longtemps.
Et quand même, ça c'est fini.
Il gagne. Oui, non, mais sur le long terme, il gagne l'Europa League quand même. Ferguson n'a pas fait. Il gagne la Coupe de la Ligue première année.
Pour un club comme Manchester United, j'imagine que l'Europa League.
C'est du genou quand même.
Pardon, mais il arrive, première année, il a quatre compétitions, la Cup, la Coupe de la Ligue, le championnat et la Coupe d'Europe, il en gagne deux. Parlez-moi, c'est
largué
pas risible. Il est largué en championnat.
Aussi,
mais
en Ligue des Champions, il n'existe pas.
Pardon, mais s'il arrive à Tottenham et qu'il réussit à gagner ne serait-ce qu'une Coupe de la Ligue, vous inquiétez pas que les supporters de Tottenham seront très contents de pouvoir soulever enfin un trophée.
On va voir ce qui va se passer contre West Ham. Je te rappelle que les deux dernières fois où il les a joués, que ça soit avec Chelsea, il y a un petit moment.
Je ne souhaite que ça manque.
Ou avec Manchester United, les deux fois il a perdu. Là, le derby de samedi, il arrive à point nommé, le derby londonien. On va voir où il en est, le génie du football.
Évidemment, j'insiste, et on en parle tous, effectivement.
Je te donne mon numéro, si tu veux, on en reparle.
Non, mais Franck, évidemment, on est sérieux aussi sur de Radio Foot. Évidemment, c'est un jeu qui aujourd'hui est négatif même, qui est restrictif même aujourd'hui, le jeu de José Mourinho. Mais encore une fois, les premières saisons, il gagne des choses, et j'insiste en tant
que... Oui, mais alors, moi, je dirais une chose, peut-être, c'est qu'on a l'impression qu'il gagne pas sur la longueur.
Ah, mais oui.
Alors, c'est vrai qu'il a gagné une Liga en 3 ans, je crois, au Real, mais par exemple, regardez ce qu'il fait. Alors, ok, il a gagné une
Europa League.
Une Ligue Europa, comme on dit sur RFI. Une Ligue Europa. Mais il la gagne, c'est un peu l'opération commando, mais en championnat, l'année dernière, ils n'étaient même pas qualifiés pour une Coupe Européenne.
Là où je suis d'accord avec vous, et c'est là où le choix de Tottenham, et donc de Daniel Levy, est très surprenant.
Alors,
c'est
que comment vous l'expliquez?
Mais justement, en fait, je me l'explique
pas.
C'est que, non, c'est
que... Tottenham,
c'est que Tottenham est a priori un club, en tout cas ces dernières saisons l'a montré, qui est un club qui pense tendance long terme. Après, on l'avait avec Pochettino. Et au final, Mourinho, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que sur les 6 premiers mois ou la première année et demie, on va dire, ça a peut-être gagné quelque chose. Hein. Encore une fois, compétition nationale, je ne sais pas, on verra ça. Mais qui, sur le long terme, dans 2-3 ans, François évoquait à l'instant le vestiaire du Real à l'époque qui avait pété dans tous les sens. Ben, je me dis, et j'espère que ce ne sera pas le cas, mais quand on sait que d'ici 6 mois, il y a des joueurs qui vont être libres, des grands joueurs, des Eriksen, des Vertonghen qui vont être libres, est-ce que ces joueurs-là...
Qu'il n'a pas réussi à vendre Mercato.
Est-ce qu'il ne va pas réussir peut-être à les mettre de côté et donc à faire exploser directement ce vestiaire? Ça peut être quelque chose.
Mais Totella me peut prendre aussi la grosse tête, les dirigeants peuvent prendre la grosse tête parce que quand on a un Pochettino qui est capable de faire grandir, de prendre des jeunes, de mettre en avant certains joueurs et d'évoluer chaque année, de pratiquer un très beau football et on se régale avec lui. Tu arrives en finale de Ligue des Champions, au vu des résultats, ben c'est pas galvaudé cette histoire-là.
Non, c'est
très bien vu. Le problème, c'est que les dirigeants, ils peuvent peut-être s'enflammer et se dire, mais nous maintenant, ils nous font un cadeau.
Bien sûr.
Donc en fait, comprennent rien. Parce que si tu comprends, c'est vrai que c'est difficile, mais tu prends quelqu'un qui va construire et qui va pérenniser ce qu'il était en train de
faire. Bien sûr.
Parce que là, il a posé des fondations et il faut quelqu'un derrière. L'autre, il en a rien à faire. Comme tu dis, il y a 7 joueurs qui sont en fin de contrat.
Ouais, c'est ça, et des grands noms.
Et ça va lui permettre à lui de mettre la mainmise là-dedans et de faire ce qu'il veut. Alors,
et
ils ont
dépenser
beaucoup d'argent.
Avec son ami Jean Mendes.
C'est pas sa faute à lui.
Ça, c'est un détail intéressant.
C'est pas sa faute à lui. C'est que c'est les dirigeants qui sont les premiers fautifs de cette histoire-là. Parce qu'ils ont pris la grosse tête.
En revanche, ce qui va être intéressant, c'est la position du propriétaire président Daniel Levy, qui alors cette saison a déboursé beaucoup. On pense à Lo Celso, à Ndombele qui sont arrivés pour très cher, mais en général Tottenham est un club qui dépense peu. En tout cas ces dernières saisons sous l'ère Pochettino, c'est un club qui dépensait extrêmement peu. Et avec José Mourinho, si Mourinho arrive avec ce salaire, etc., ça veut dire qu'il a dû avoir des garanties. Et donc le président lui a fait comprendre, t'inquiète pas, on va débourser, je dis une somme, 100 millions cet hiver ou 150 millions l'été prochain.
Si c'est le cas, c'est gravissime.
Bien sûr,
c'est un manque de respect
totalement de club.
Pour Pochettino, c'est un manque de respect pour son travail et c'est un double discours, un double langage. Mais on est habitué avec certains dirigeants.
Et Pochettino avait quand même fait l'économie de 2 mercato. Il n'avait pas dépensé un seul euro pendant 2 mercato.
Mais est-ce qu'il a fait des économies ou est-ce que c'était un choix aussi délibéré?
Il avait confiance en ses jeunes, jeunes qui sortaient de l'académie. Exactement. Il avait des jeunes qui montaient en régime comme Dele Alli, comme Harry Kane.
Oui. Alors on espère que Harry Kane, je ne sais pas ce que vous avez sur les réseaux sociaux.
Ah, son message est très fort envers Mauricio Pochettino. Il parle de son entraîneur et de désormais son ami.
Ouais.
C'est un mot fort quand même. Vous êtes le capitaine, vous êtes le joueur emblématique
de
Tottenham.
Capitaine de l'Angleterre en plus.
Le capitaine de l'Angleterre. Et vous faites comprendre que c'est mon ami qui est parti.
Et il dit et il explique qu'il l'a fait progresser.
Exactement.
Je vous remercie de m'avoir, m'avoir fait progresser.
Tout le monde a ses côtés.
Non, mais c'est ça qui est étonnant, c'est que Pochettino, en plus, il y avait des rumeurs. On l'envoyait au Real. On disait que le Real en rêve. On disait que certains grands clubs européens
en rêve. C'est encore possible, Annie.
Je n'ai pas dit que ce n'était pas possible, mais il y a certains grands clubs qui en rêvent et un club peut-être un peu moins important que le Real le vire.
Moi, je serais à la place de Thomas Tuchel, actuel entraîneur du Paris Saint-Germain. Je commencerais peut-être à me faire un petit peu
du
de soucis parce que Pochettino, on le sait, c'est son rêve.
Pas avant.
C'est son rêve, ouais.
Il va prendre des vacances. Mais
voilà, c'est son rêve de venir un jour entraîner au Paris Saint-Germain.
Il
a joué au Paris Saint-Germain, il parle français couramment.
Ouais.
Moi, je me souviens l'avoir fait en interview dans ses premières semaines à l'Espagnol de Barcelone. Et c'était pas le PSG que l'on connaît, c'était en 2009. Hein. Mm-hmm. Il a dit, c'est mon rêve un jour d'entraîner le PSG et j'y arriverai un jour.
Ça peut être lui qui répète
le système économique Paris peut-être. On est d'accord. Merci.
Ouais. Une dernière petite chose pour clore le sujet, Salim. C'est vrai que cette équipe n'est que 14e actuellement, mais c'est à 5 points, je crois, du 5e.
C'est très dense.
Oui, un peu comme en France. Hein, on rigole de la France,
mais même
en Angleterre.
C'est pour ça,
l'Espagne aussi, hein, c'est pareil, très serré.
Aussi, donc il y a ça, virer, et en même temps, c'est effectivement, il avait peut-être un peu tiré sur la corde. C'est ça aussi parce qu'on dit que son effectif est un peu rincé, comme le veut le terme.
Après, le fait est que depuis le début de saison, alors mis à part de rares blessures, sinon il ne faisait que très peu tourner son effectif. C'est là où Ndombele, pour l'instant, il a eu du mal à s'intégrer, alors qu'il a été acheté très cher quand même. Giovanni Lo Celso, qui revenait de blessure, a eu du mal, mais s'intègre petit à petit. Et Pochettino l'a intégré petit à petit dans ce 11. Donc, en fait, cet argument qui a été évoqué, hein, moi, je le reçois pas. C'est que Pochettino avait besoin de temps encore pour pouvoir intégrer parfaitement ces deux joueurs au milieu de terrain. Moussa Sissoko, on parlait de certains joueurs qui ont progressé. Pardon, mais Sissoko, à Tottenham, il est devenu un joueur de foot, quoi.
C'est affolant. Sur le terrain, il traverse non,
mais,
le terrain.
Non, c'est affolant de se dire ça. Lucas Moura est devenu un joueur clé de cet effectif, un numéro 12
totalement
exceptionnel.
Libéré dans son jeu.
Et c'est là où je me dis que Daniel Levy, il avait quand même un entraîneur en or. Alors oui, 14e.
Il connaît pas en foot, Daniel Levy.
Ah oui, s'il connaît en chiffres, par contre.
Non, pardon, parce que au final, si vous arrivez et si vous donnez la confiance à Pochettino pendant autant d'années et que vous le mettez sur le banc, ça veut dire quand même que voilà. Après, encore une fois, et Marc l'a très bien dit, est-ce qu'à un moment donné, Tottenham s'est pas vu trop beau et s'est dit non, j'ai besoin d'un top 4 ou 5 mondial.
Ça manque totalement d'élégance, de toute façon, pour cet homme.
Alors, ça, malheureusement, Franck, vous devez être habitué dans ce milieu-là. L'élégance, ça fait longtemps qu'elle n'existe
plus. Je m'habitue pas à ce genre de comportement.
Disons qu'on la voit souvent, voilà. Je veux pas dire qu'on s'y habitue et je trouve pas ça bien, mais c'est vrai que malheureusement,
surtout,
ça se multiplie.
Vous voyez, Annie, surtout sur des techniciens, des personnages, des gens comme Pochettino.
Qui font progresser le football, on va dire.
Moi, je trouve que voilà, lui, il est dans cette mouvance-là. On est content d'avoir cette jeune génération de techniciens. Pour moi, déjà, n'en déplaise à nos auditeurs qui adorent le Special One, pour moi, c'est déjà la génération d'avant.
Il est plus special, je crois.
Non, il est de moins en moins spécial.
Moins one.
On parlait que Daniel Levy était un homme dur en affaires. C'est vrai que les chiffres, il les connaît très très bien, mais c'est vrai que c'est pas un dépensier non plus, Lévy. Hein. C'est pas non plus un dépensier. Bah oui, donc, je sais pas dans quelle direction effectivement ils vont prendre. Parce que
là, il va payer les doubles.
Et j'insiste, mais d'autre côté, si Mourinho arrive, enfin, j'ose croire, évidemment, on n'est pas dans le secret des dossiers, c'est que Mourinho a peut-être eu des garanties. Et qui dit garantie de pouvoir dépenser certaines sommes, etc. J'ose croire, en tout cas.
De faire venir des gens, etc.
Voilà, juste une petite question. Franck dit faire venir des gens. Apparemment, il allait souvent voir Christophe Galtier à Lille, mais c'était pas seulement pour Christophe Galtier.
Ah non, c'était pas du tout pour Christophe Galtier.
Il lui pique
deux de ses adjoints, effectivement, qui ainsi arrivent. Hein, comme quoi, on parlait de l'amitié entre la direction lilloise et José Mourinho. Mais on voit que l'amitié en question, elle n'était pas si réelle que ça.
Lille.
Bizarrement, non.
Et on va voir aussi ce qui se passe avec Luis Campos, qui est le directeur sportif de Lille. Il est très proche de Mourinho, qui avait aussi au Real Madrid. Et là, ce sera un gros coup dur pour Lille, hein, si perd Luis Campos.
Bon, mais Lille, déjà, ça va pas très bien en championnat ni en Ligue des Champions. Alors, c'est la croix sur le cercueil. Mais on verra ça dans Radio Foot.
Ils ont un Simen quand même. Hein. Ça peut rapporter beaucoup.
Ouais, mais vous avez
même
vu Pépé après.
Pourquoi pas.
Voilà. Pourquoi pas.
On continue avec les Bad Boys. I'm bad. Alors effectivement, ils se sont provoqués, ils se sont même défiés. Alors heureusement, le duel n'a plus voix de cité actuellement. On n'a plus le droit de se provoquer en duel. Mais ça a drôlement chauffé entre Lionel Messi et Edinson Cavani lors du match amical. Pourtant, c'était Argentine-Uruguay, mais il est vrai qu'en Amérique du Sud, et là quand même, je connais bien le sujet, ces confrontations, un Argentine-Uruguay ou un Brésil-Argentine, même s'il y a marqué le mot amical à côté, ça n'est jamais amical. En tout cas, eh bien, écoutez-le Cavani, parce que c'est un peu ce qu'il a dit quand même.
Se picó un poquito ahí con Leo. Sí, como es el fútbol, como son los clásicos, cosas del fútbol.
Alors, la réponse est très rapide, c'est plutôt la question d'ailleurs, on lui dit « Ah, c'est un peu chauffé entre vous deux ?» Et il répond « Oui, bah, c'est comme ça que c'est le football. » Est-ce que François David, vous qui le voyez toutes les semaines et qui le suivez à la trace, Lionel Messi, quand c'est pas Alejandro Valente, n'est-ce pas ? Depuis 10 ans.
Mon pauvre.
Est-ce qu'il est devenu fébrile ? Est-ce qu'il est devenu irascible, nerveux ? Alors, ça chamaillait un peu sur notre page Facebook hier sur le terme. Effectivement, on se demandait s'il était fébrile. Mais est-ce que Lionel Messi, on le voit un peu plus souvent qu'avant, perdre ses nerfs sur un terrain ?
Bah déjà, je trouve que par rapport à tout ce qui se prend sur un terrain, il les garde quand même beaucoup ses nerfs. Hein, Lionel Messi,
des tacles
forts, on le retient par le maillot, il proteste presque jamais, il prend jamais de carton jaune. Il y a une petite évolution, je suis d'accord, depuis... depuis quelque temps. Bah, on l'a vu avec Cavani, on l'a vu aussi avec Arthur. Il y a pas longtemps, Argentine-Brésil, il y a quelques jours. Arthur, quand même, son coéquipier au Barça.
Ouais, mais qui joue avec le Brésil quand il joue avec le Brésil.
Mais bon, maintenant, il faut savoir que Messi, alors je parlais qu'effectivement, on suit Messi depuis plus de 10 ans. C'est plus le petit Messi gringalet avec des cheveux longs et sans barbe. Maintenant, il est taillé comme un taureau. Il a des tatouages partout. C'est le chef du vestiaire. C'est le chef du vestiaire total du FC Barcelone. Et c'est lui qui dit un petit peu ce qu'on fait, les bons comportements ou pas.
Mais là, c'est Suarez qui a dû quand même le calmer.
Oui, parce que c'est l'un des seuls qui peut lui parler en face, parce que c'est son meilleur ami. Donc, c'est une évolution normale. Alors, fébrile, non, ça restera toujours Messi. Mais bon, c'est vrai que Messi, maintenant, on n'a plus intérêt à lui toucher les chevilles. Surtout que quand Messi s'en prend à quelqu'un, ça fait le tour du monde, tout le temps. Et les adversaires, maintenant, savent aussi que, voilà, que si jamais ils s'en prennent à Messi, il pourrait avoir quelques petites répercussions.
Marc, c'est normal, on s'insulte.
Il a 32 ans aussi, Messi.
On se provoque de se retrouver dans la cour de récré.
Absolument, mais c'est logique. Mais non, mais c'est.
Vous le choisiez vous aussi quand on vous chauffait les chevilles.
Ouais, ça m'est arrivé aussi. Mais non, mais là c'est juste se brancher entre deux grands champions et puis après le match, voilà, on passe à autre chose. Même si on va charger un petit peu Messi ou Messi nous charge, on sait qui. Enfin voilà, et on est obligé de se brancher en Ligue 1, en Ligue 2, en Espagne, en Italie, de partout, tout le monde se branche. Et non. Sur le coup, on est capable de se mettre un coup de tête. Par contre, à la fin, on a déconné. Ouais, ça va. Ben écoute, on passe à autre chose. Non. Si vraiment on se porte rancune de ce genre de choses.
On mange un barbecue ensemble.
Non, mais façon de parler, bien sûr, qu'il y a un antagonisme entre les deux pays, mais ça reste quand même du football et on sait que c'est quand même Messi. C'est vrai qu'il est branché tout le temps, comme Cavani peut être branché tout le temps. Et puis
c'est
là,
c'est le jour
où.
Là.
Mais c'est les deux compétiteurs. C'est le jour où t'as pas envie. Peut-être que trois jours avant ou deux heures avant ça passe et puis sur ce coup-là ça ne passe pas et tu le prends et puis après c'est rien. Et comme a dit Cavani, c'est pas grave, c'est le football, c'est comme ça.
Surtout juste ça, il faut avoir un certain statut aussi pour brancher Messi. Je suis pas sûr que le défenseur central de Valladolid, il va aller brancher Messi. Cavani peut le faire, Suarez il peut le faire, les joueurs du Brésil.
Faut avoir le niveau en gros pour provoquer Messi. Franck, vous vouliez dire?
Oui, juste un petit témoignage personnel. Je connais pas Messi depuis 10 ans, mais vous savez, les petits vieux comme moi, tous les dimanches matin, on branche. Moi, je suis gardien, je branche les attaquants adverses. C'est tête contre tête. Ça nous empêche pas d'aller boire l'apéro après le match. En fait, si t'es joueur de foot, joueur ou joueuse de foot, c'est dans toi. C'est tout simplement.
On joue pour gagner.
On joue pour gagner. C'est comme ça, et qu'on soit un jeune joueur. Quand on a 30 ans ou 32 ans, ou qu'on soit des vieux bons hommes comme moi. Donc c'est, je trouve qu'au contraire, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire qu'ils en ont encore quelque chose à faire de ces confrontations, même amicales. Ça reste des grands champions.
C'est pour ça que je joue plus, parce que je me dispute tout le temps.
Avec les gardiens ou pas?
Avec tout le monde.
C'est vrai.
Avec même les supporters. Mais tout, avec tout le monde, moi.
Parce que Marc veut gagner tout le temps.
C'est normal.
Faut aller jouer avec Franck le dimanche matin.
Ah ouais, il y a des buts de marquer
ensemble. Il faudra dégager mon poitrine.
Voilà.
Une autre petite anecdote aussi, François David, comme vous êtes notre piti espagnol, je continue. Hier, on y reviendra sur les qualifs de l'Euro, mais hier, le Pays de Galles s'est qualifié avec un Gareth Bale en très très grande forme. Là, il avait mal nulle part. Avant le match, il avait déclaré
«
Pour moi, jouer sous le maillot du Pays de Galles, ça m'éclate. Ensuite, ce qui me plaît, c'est le golf. Et ensuite, le Real Madrid, n'est-ce pas ?» Et du coup, ça avait été un peu mal interprété. Enfin, lui, en tout cas, il avait dit « Mais vous inquiétez pas, je me donne toujours à 100% sous le maillot, je suis un professionnel et tout. » Résultat, il y a quelqu'un de Madrid, un ancien joueur qui l'a très mal pris, qui dit oui, de toute façon, avec Gareth Bale, c'est donc le Pays de Galles, le golf et Madrid dans cet ordre-là. Et hier, on l'a vu parader sur le terrain au Pays de Galles avec un drapeau où il avait écrit ça sur le drapeau et en mettant bien dans cet ordre. Résultat, les supporters du Real Madrid sont ce matin, alors eux, c'est ni irascible, ni fébrile, ni rien, ça, ils sont en pétard et ils disent il faut le vendre dès le mercato d'hiver.
Quel troll, hein, c'est le bon british, ça.
Tellement bon,
c'est difficile à comprendre l'humour british, n'est-ce pas?
C'est fou, mais c'est vrai que à Madrid, il est constamment critiqué déjà parce qu'il ne peut pas jouer.
Il est aimé pas, Gareth Bale, à Madrid?
Il aurait pu être
parce
aimé.
Parce que ce personnage, cet ancien joueur, dit il fera jamais partie de la légende.
Non, parce que quand Ronaldo part, le Real ne le vend pas. Mourinho le veut d'ailleurs à Manchester. Le Real ne le vend pas parce qu'il pense que Bale peut prendre la place de Cristiano Ronaldo en tant que superstar international. Voilà, le problème, c'est qu'il n'a ni le charisme de Ronaldo. Il marque pas autant de buts de Ronaldo. Au bout de 6 ans, il parle pas un mot d'espagnol. Ah ouais. Il parle pas.
Bah d'ailleurs, il dit, hein, j'aime bien jouer au Pays de Galles parce que on parle la même langue sur le terrain.
Et il passe son temps
toujours
à jouer au golf. Il passe son temps à jouer au golf. Zidane, quand on l'interroge, il dit, Bale, il peut jouer, mais il est pas prêt à jouer. C'est-à-dire qu'il a pas l'intensité aux entraînements, pas le rythme, pas l'envie. Mais s'il veut un départ pour le mercato d'hiver, c'est pas possible. Zidane a dit, moi, au moins, je le garde jusqu'en juin. Ce sera peut-être une prison dorée. Mais en tout cas, oui, c'est quel humour quand même british.
J'adore
de
ça. So British.
Et juste pour compléter votre propos, hier, lorsque Pochettino est donc officiellement limogé, évidemment, toute la presse anglaise ne parle que de ça. Mais lorsqu'il y a ce fameux drapeau, cette fameuse image, parce que Pays de Galles qui se qualifie, c'est forcément quelque chose de fort. Ouais. Et avec ce drapeau-là,
avec
cette photo-là,
Giggs, c'est fort.
Et bien tout d'un coup, ça s'est équilibré. On a parlé autant de Pochettino que de cette photo en disant ah ben peut-être que Gareth Bale va revenir rapidement en Angleterre. Et là, ce n'est que ma lecture. Mais Mourinho, lui qui a toujours rêvé de Gareth Bale, pourquoi pas un retour de l'enfant prodigue à Tottenham, ouais. Tiens, en janvier, ce serait pas mal, ça.
En janvier, non.
Il a dit non, le monsieur.
C'est Zizou.
Zindine.
C'est Zizou. Oh. Mais quel dommage, parce que Bale, quand même, alors, il y a eu un calcul en Espagne, il a joué la moitié des matchs possibles en 6 ans. La moitié des matchs. Donc il a joué 3 ans sur 6 ans possibles.
Et il est payé
bien. Mais il a joué les grands matchs.
Quand il a joué, il était bon.
Il a joué les grands matchs. Il a été bon dans les grands matchs. Et c'est ça qui le sauve encore.
Il est payé à moitié.
Ah bah non, ça, il touche une fortune en plus.
Non, il y en a un ici, mais il joue. C'est le contraire, non. Il y en a un à Paris qui fait ça, mais c'est le contraire.
Ah oui.
Il joue que les matchs en carton et pas les gros.
C'est
dommage.
Exactement.
Mais il parle pas anglais. C'est ça. Il pourrait pas jouer avec Gareth Bale. Bon, voilà pour notre petite page de notre digression, disons, autour des footballeurs.
Ça change, hein, cet
après-midi. Ça change un peu, n'est-ce pas, Franck?
C'est bien, non,
allez, on rentre dans un sujet qui vous plaît particulièrement. Franck et d'ailleurs, Eric Chorin nous a rejoint. Bonjour Eric.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
C'est parti pour l'Afrique.
Allez, on y va.
On y va. La CAN 2021, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations organisée, à cette heure en tout cas, par le Cameroun, comptera encore 24 participants, je dirais à cette heure toujours. Et les éliminatoires ont déjà commencé avec donc les deux premières journées avant la troisième qui se situera au mois d'août prochain. Donc on va faire un petit bilan. Et que dire? Alors nous, on en avait un peu conclu, et je pense que nos confrères du site web, hein, africfoot.fr, que vous pouvez consulter, eh bien en gros, les gros s'en sont plutôt bien tirés, hein, Franck.
Oui.
Je vous regarde aussi, parce que sur votre blog, on vous lit aussi. Mais alors, par contre, on peut y aller, pas tous les gros s'en sortent bien, et notamment, eh bien, pas les plus gros, les pachydermes de Côte d'Ivoire. Eric Chorin, hier, faux pas. Les éléphants de Côte d'Ivoire se sont inclinés en Éthiopie.
Ils avaient déjà difficilement gagné à domicile face au Niger 1-0. Là, ils s'inclinent en Éthiopie. Apparemment, ça fait un demi-siècle que c'était pas arrivé, une défaite ivoirienne face aux Éthiopiens. Donc, ça fait quand même
c'est
un coup dur et ça fait apparemment beaucoup de bruit du côté d'Abidjan.
C'est ce que nous a dit Emmanuel Kofi, effectivement.
Hein,
les supporters sont furieux.
C'est scandaleux.
Est-ce que c'est de la faute de l'entraîneur? Il dépend de son départ.
De toute façon, ça fait un moment, avant même la Coupe d'Afrique des Nations, ils demandaient le départ de Kamso Kamara. Ils l'ont demandé pendant et après, mais comme il y avait eu ce quart de finale quand même assez, un des plus beaux matchs de la CAN contre l'Algérie, perdu au tir au but.
Voilà,
les gens s'étaient dit, finalement, peut-être qu'il est quand même capable, mais oui. Et depuis, il y a eu quelques matchs amicaux, il y a eu une défaite notamment contre le Bénin en France, il y a eu une victoire en amical le mois dernier contre la République démocratique du Congo, 3-1 grâce à Wilfried Zaha, mais c'était en trompe-l'œil. Et puis là, c'est vrai que ces deux premières journées n'ont pas été très probantes. Il y avait des absents, mais ça n'explique pas tout. Il y a un vrai souci d'équilibre. Et en face, il y avait une équipe dont les joueurs n'ont pas été en championnat depuis le mois de juin quand même. Faut le rappeler. L'Éthiopie, ils ont pas de championnat, quoi. Ils ont tapé la Côte d'Ivoire, qui était quart finaliste de la dernière CAN. Donc ça fait vraiment désordre. Et effectivement, je pense que la pression monte. La seule consolation hier, un peu partout en Côte d'Ivoire, c'est quand même la qualification des éléphants U23 pour les Jeux Olympiques de Tokyo.
C'est la deuxième fois, hein,
ils étaient en 2008. Ils étaient à Pékin en 2008. Donc félicitations au coach Soilio. Mais pour le reste, oui, vraiment, ça plonge le football ivoirien dans un bain à remous dont il serait bien passé dans cette cette période où on a commencé à évoquer en plus la présidentielle à la fédération ivoirienne avec Drogba. Hein.
Donc, en ce moment, il y a un climat qui est pas terrible.
Ouais.
Mmh. Et puis c'est d'autant plus visible qu'effectivement pour les autres grosses équipes, ça se passe bien, si ce n'est peut-être l'Égypte qui est l'autre qualifiée pour les Jeux olympiques. Bon,
enfin,
avec
l'Égypte a raté sa canne. On est d'accord.
Qui a raté sa canne.
Voilà, ils n'ont pas
donc
été bons.
Elle a même lancé.
Alors, la prochaine n'est pas bien lancée.
Autre, on va pas dire gros, mais en tout cas habitué de la canne, c'est le Togo. Et le Togo, alors lui, on le retrouve, Eric, dernier de son groupe.
Bah, il est dernier.
Un seul point.
Bah oui, oui, le Togo, ça va pas très, très fort pour effectivement pour les Togolais qui ont un seul petit point.
Ni pour Claude Leroy.
Pour le
sélectionneur Claude Leroy.
Ouais. Et la génération, c'est une génération vieillissante. Voilà, on a du mal à renouveler cette équipe.
Il y a plus Adebayor peut-être quand même. Ouais.
Ils ont peut-être un des meilleurs défenseurs en Espagne qui est Djéné.
Djéné Lacombe de
Retafe, qui est un joueur petit pour un central, mais un joueur vraiment.
Ouais, il était souvent dans les équipes types de la Liga. Ça suffit pas. Après, ils ont dominé, hein, la semaine dernière, ils ont dominé les Comores au nombre d'occasions. Tu te crées 16, 17 opportunités, tu marques pas. Les Comoriens ont une occasion, deux, une et demie, ils marquent. Ouais. Et voilà, c'est super bien joué de la part des Comoriens. On sait que c'est une équipe qui a progressé de façon incroyable. Et puis derrière, le Togo va quand même réaliser un résultat intéressant. C'était à Nairobi, en altitude. Ils étaient menés, ils égalisent. Je crois d'ailleurs que c'est un autre défenseur, je crois, c'est Urosama, il me semble, qui a marqué. Mais ça ne suffit pas et je pense que pour Claude Leroy, ça devient de plus en plus compliqué.
Oui, Urosama, effectivement,
qui a
égalisé à
de la tête
Nairobi,
sur corner, sur un corner de Séville.
Mais c'est un groupe quand même où tout est un peu cul par-dessus tête, puisque effectivement le Togo est dernier, l'Égypte avant-dernier, ce sont les Comores qui sont en tête du groupe.
Mais bravo, c'est la Cante.
Alors bravo. Justement, parlons de c'est la Cante, parce que l'autre thématique finalement qu'on se disait, si les gros en gros donc s'en sont tirés dans
ces. Notamment les quatre demi-finalistes de la dernière CAN.
Exactement, le Sénégal,
la Tunisie. Le Nigeria.
Et même le Bénin, hein, qui lui aussi avance bien. Mais alors là, par contre, on se retrouve avec les petits qui veulent aussi se faire la place au soleil, puisque maintenant, il y en a 24. Et les Comores, n'ont pas participé, mais on se souvient que la dernière fois, ils avaient un peu piégé déjà dans leur île. Hein, ils arrivaient à se défaire des adversaires. Et là, ils ont marqué, eux, 4 points en 2 matchs.
Ouais, c'est ça. Oui, la victoire, donc.
Contre
au stade
le Togo,
de Kégué,
voilà.
Contre le Togo, 1-0.
Et puis un match nul qu'ils ont fêté comme une victoire. Ouais, on voyait les images sur les réseaux sociaux.
Contre l'Égypte, ils auraient. Vous connaissez mon amour pour le football égyptien. Les Sélakantes auraient mérité de gagner. S'il n'y a pas Chenaoui dans le but, c'est une victoire normalement pour les Comoriens dans leur nouveau stade.
Donc, qu'ils inauguraient ce jour-là. Offert par des Chinois.
Ouais, un stade, un terrain envahi et tout à la fin. Enfin, c'était assez flippant en revanche, les images. Ouais. Ça faisait très peur.
Il y aura sûrement une amende à la clé.
Il risque d'avoir une amende, mais très bon travail d'Amir Abdou, qu'on a vu le mois passé battre la Guinée. Mm-hmm. 1-0 à Versailles, en région parisienne. C'était très maîtrisé. C'est une équipe équilibrée, c'est une équipe qui progresse. En vérité, c'est les équipes insulaires qui en ce moment sont en train de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Parce que là, vous évoquez les Comores, on peut évoquer Madagascar.
C'est ça.
Hein. Vous évoquez Madagascar. On va écouter Jérémy Morel parce que Madagascar, exactement. Madagascar, Eric, non seulement ils gagnent leur premier match
contre l'Éthiopie.
Ils ont gagné leur deux matchs.
Et après contre le Niger.
Ils sont en tête de leur groupe avec 6 points.
Ils ont fait un carton contre le Niger.
6-2 au Niger. Là-bas, c'est un drame national.
À l'extérieur, messieurs,
mais 6-2 là-bas, à Niamey. Ça fait mal. Moussa Mahazou s'en plaignait effectivement. Il en avait plus honte. Mais les Malgaches, c'est plus une surprise, quoi.
Non, voilà. C'est plutôt une confirmation. Et on écoute Jérémy Morel au micro justement de notre correspondant Ousmane Keïta.
On voulait essayer de venir prendre la victoire ici, c'est chose faite. Là maintenant on va pouvoir préparer sereinement les échéances à venir. Donc on est content pour le pays. Et ce serait une grosse erreur justement de croire que la qualification est faite. Je me suis dit on a fait un grand pas, mais aujourd'hui on n'a que 6 points. Si on perd tous les matchs qui arrivent, ce qu'on a fait aura servi à rien. Donc faut simplement se servir des deux matchs qu'on vient de jouer pour continuer dans cette ligne-là.
Madagascar, donc les Barea, Eric, ils nous ont pas surpris dans le sens où effectivement à la CAN ils terminent quart de finaliste
à la CAN. Déjà leur qualification c'était historique. Ensuite il y a ce très très beau parcours à la CAN. Mais alors Jérémy Morel, on l'entend, il est lucide quand même, parce qu'il y a la double confrontation face à une équipe qu'on vient d'évoquer, face à la Côte d'Ivoire qui aura lieu l'été prochain.
Que de nom,
blessé.
Hein, oui. Une équipe qui franchement qui est totalement désarticulée, qu'il faut repenser. Il y a pas de milieu, enfin le milieu de terrain ça ressemble à rien, il y a pas de création.
Là vous parlez de la Côte d'Ivoire.
Ouais, la Côte d'Ivoire. Ouais. Mais en revanche, pour les Barea, C'est voilà, ils ont fini, eux aussi ont fini la CAN rincée. Hein. Faut pas oublier que s'ils perdent lourdement en quart de finale contre la Tunisie, ouais, c'est que ils étaient épuisés.
La route était longue.
Ils ont battu le Nigeria. Mm-hmm. C'est une équipe qui a rincé le Nigeria pendant en premier tour. Donc vraiment félicitations, ils sont dans la continuité. Puis il y a surtout le départ de leur buteur maison historique, hein,
oui,
qui s'est arrêté le week-end dernier.
C'était sur RFI, hein, la semaine dernière.
Ouais, j'ai entendu ça. Mm-hmm. Faneva, Ima Faneva, Andriatsima, et voilà. Et maintenant ils sont obligés de trouver des ressources. Ils les ont, ça tombe bien. J'aimerais bien être à Abidjan en septembre pour ce match contre la Côte d'Ivoire.
Et juste sur cette équipe de Madagascar,
ah, après, vous y serez.
On l'espère.
Après cette perf en Coupe d'Afrique, certains des joueurs de Madagascar, pas tous, mais certains, ont même fait un autre tournoi derrière, le jeu des îles de l'océan Indien, qui regroupait certaines nations des îles. Certains, puisque la plupart des joueurs de cette équipe-là étaient les joueurs locaux de Madagascar. Mais c'est vous dire, et, au niveau du rythme, et c'était épuisant quand même, ils ont continué, et là, ils reprennent leur saison. Enfin, c'est impressionnant ce qui est fait par Madagascar, comme les Comores aussi. D'ailleurs, moi, ça me touche, parce que malheureusement, j'ai envie de dire, en tant que franco-mauricien, de ne pas voir l'île Maurice réussir à accrocher les corons de Madagascar.
Ça ne va pas se faire éliminer au tour préliminaire. Hein.
Et c'est ça, par ça,
mais ça on a, là, on a évoqué uniquement les journées 1 et 2 de la semaine, oui, dernière et cette semaine. Mais avant ça, il y avait eu un tour d'écrémage.
Tout à fait.
Les Mauriciens y étaient. C'est malheureusement. Ouais. Voilà, c'est
compliqué. Un dernier petit qui devient grand, parce que lui aussi était à la dernière CAN, c'est la Mauritanie, Eric. Les Morabitoun. Oui.
Les Morabitoun qui font douter les Marocains.
Exactement.
Effectivement, notamment
bravo le gros voisin.
Bravo à Namori Diaw, le gardien de Tevar Zeina. On avait rencontré son président, vous vous souvenez?
Exactement.
Annie, en décembre 2017. Et donc, félicitations à Seymour Abitoun, parce que derrière, il recevait à la maison, sur le stade Cheikh Aboïdia, là, on y était. Hein.
On a vu, là aussi, ils ont envahi à la fin.
Voilà, ça a été envahi, battre l'équipe de Centrafrique, qui était privée de Kondobia, son capitaine. Mais c'est un beau succès, ça fait 4 points. C'est bien, ils sont devant avec le Maroc.
Écoutons leur sélectionneur, Corentin Martins.
C'est ce qu'on essaye de faire à chaque match, c'est de confirmer nos bonnes prestations. Depuis le début, depuis le Maroc, j'ai dit aux joueurs que l'objectif, c'était de se qualifier de nouveau pour la CAN. On l'a fait une première fois, faut qu'on confirme. C'est pas le plus facile, mais voilà, à chaque match, il faudra tout donner, jouer avec notre identité, à savoir mettre beaucoup d'agressivité, beaucoup de densité côté ballon, et puis jouer au ballon, parce que ça suffit pas que de défendre, comme on l'a vu au Maroc. Il faut aussi attaquer pour gagner des matchs.
Quentin Martins, la Mauritanie, travaille de fond avec la Mauritanie, Nicolas Dupuis avec Madagascar,
il y a la continuité. 5 ans pour Coco Martins, et pour Nicolas Dupuis, ça fait 3 ans, et voilà, c'est la stabilité.
Il y a eu un CHAN, après il y a eu une CAN, et il y aura peut-être une deuxième CAN.
Il y a mieux que ça, c'est Amir Abdou, 6 ans.
Oui.
6 ans, sélectionneur, messieurs, d'une équipe nationale. En Afrique,
c'est un
siècle. C'est un siècle, c'est incroyable. Et Amir Abdou travaille bien. Et croyez-moi, il est aujourd'hui une référence. Il est une référence pour ce qu'il apporte dans cette.
Donc la Comore à la CAN 2021, vous y croyez?
Je trouve que ça serait bien.
Il a envie d'y croire.
J'ai envie. Ouais, parce qu'il y a, en plus, lui renouvelle son équipe, il travaille bien, tout est pensé avec lui, et il y a des problèmes à la fédération, ça ne l'empêche pas d'avancer.
Mm-hmm. Voilà. Marc, en plus, c'est presque des.
C'est des Marseillais, les Comoriens.
Des co-religionnaires.
Il y en a beaucoup déjà à Marseille.
Mais oui,
ils ont beaucoup l'accent.
Je sais. Mais c'est très bien, ça amène un petit peu de sang neuf et des nouveautés, et puis la fidélité, je pense, ça paye tout le temps. Et puis quand les gens voient qu'on travaille, qu'on tire tous dans le même sens, ben ça avance. Il faut que ça continue en tout cas comme ça. Il faut en prendre l'exemple.
Les Comores au Vélodrome serait pas mal quand même.
Ils étaient venus à Martigues, ils avaient fait nul contre.
Il y a eu Soprano il y a pas longtemps.
Oui. Et puis ça avait été exceptionnel. Ouais. Mais c'est ça aussi, c'est ça cette sélection.
Ouais, c'est des jolis liens.
On se moquait d'eux à France Foot. J'avais fait un papier. On avait appelé ça la sélection Aioli. Mais depuis la sélection Aioli, elle s'est pimentée. Hein, je peux vous dire. Elle met des raclées à tout le monde.
Elle pique.
Voilà.
Merci beaucoup, Eric Chorin, pour vos lumières sur ces éliminatoires. Allez, on continue et on va parler un petit peu de l'euro parce qu'il y a des choses à comprendre. On parlait de Gareth Bale tout à l'heure. Eh bien, voilà, il était en train de chanter hier soir ce si bel hymne. Je me souviens l'avoir entendu avec Philippe Zygraf pendant l'Euro 2016, c'est ici au Parc des Princes, parce que c'est le même qu'on chante en Bretagne, mais en langue bretonne. S'il m'avait bien appris les choses, notre père à tous, Philippe Zygraf. En tout cas, on a donc les 20 qualifiés et le 20e, c'était donc le pays de Galles. 20 qualifiés, il reste donc encore 4 places, puisque là aussi une compétition à 24, mais un tirage au sort aura lieu lieu le 30 novembre. Alors, on se dit le 30 novembre, mais il n'y en aura que 20, donc. Et puis, alors, il y aura des barrages en mars. Après, on aura un ajustement. C'est un peu bizarre, tout ça. Qui veut se risquer à nous expliquer. Alors, s'il y a quelqu'un qui s'est porté volontaire.
C'est très simple.
Il s'appelle Salim Bongali.
Alors, on l'a dit, et vous l'avez dit, il y a 20 équipes qualifiées. On est d'accord. Et on a compris que pour définir le critère des chapeaux.
Fait le tirage au sort sans eux.
Non, mais pour définir le critère donc, des différentes équipes, c'est très simple. Et des différents chapeaux, vous l'avez donc compris. On ne se base plus sur les coefficients UEFA ou FIFA. On s'en fiche de ça désormais. C'est simplement les éliminatoires qui comptent. Plus vous avez de points, plus vous avez de chances d'être dans le chapeau 1. Moins vous avez de points.
Ça veut dire que vous êtes champion du monde ou vous êtes champion d'Europe, vous êtes dans le chapeau 2 ou 3.
Oui, Annie, parce que désormais, on veut aussi donner de l'importance aux qualifs. Vous le savez, et on le sait tous. Je prends davantage l'exemple des éliminatoires de la zone euro que de la zone Afrique ou autre, parce qu'en zone Afrique, on a souvent des groupes à 4 équipes, c'est-à-dire moins de matchs, 6 matchs. Là où dans la zone Europe, on a souvent des groupes à 5, voire à 6 équipes, donc beaucoup plus de matchs. Et souvent, les derniers matchs sont inintéressants parce que vous avez déjà deux équipes qui sont qualifiées, etc. Alors que là, vous donnez aussi de l'importance à ces petits matchs, même quand vous affrontez l'Albanie qui est un petit, ben vous devez gagner quand même parce que ces points.
Vous faites 6-0,
deviennent...
9-0.
Oui, mais vous devez gagner, sauf que ben face à l'Albanie, vous ne faites pas 6-0, 9-0. Face à la Turquie, quand vous la recevez, ou d'autres équipes, vous êtes obligé de vous imposer face à ces équipes-là pour espérer être plus haut dans un chapeau. Au final, ça donne de l'importance aux éliminatoires, de l'intérêt à ces matchs.
Façon,
c'est une bonne chose, non?
Quand on est dans le groupe 1, si on se retrouve avec la France dans son groupe au tirage au sort, on va pas sourire.
Ce qui est sûr, c'est que les équipes vont vouloir éviter la France, les Pays-Bas.
Normal.
Après, ce sont les tirages, j'ai envie de dire. Ça, c'est les tirages, c'est ainsi.
Alors, pourquoi on va refaire des barrages si loin dans le temps? Parce qu'on se souvient, la France était passée par les barrages, par exemple, pour aller à la Coupe du Monde en 2014. Les barrages étaient au mois de novembre. Là, on fait des barrages au mois de mars, c'est-à-dire un mois et demi avant la compétition.
Après, il n'y a pas d'autre date, j'ai envie de dire. C'est très bête, parce qu'en novembre, justement, il fallait que ces éliminatoires se terminent d'abord, pour qu'on puisse définir les équipes qualifiées via les éliminatoires.
Je croyais que l'Euro servait à quelque chose, la Ligue des Nations servait
à quelque chose. Mais justement, elles servent maintenant, parce que les barrages, je le rappelle, ce n'est pas du tout via les éliminatoires de l'Euro. Maintenant, ne pensez plus du tout aux éliminatoires de l'Euro, c'est terminé. Maintenant, on ne regarde que le classement de la Ligue des Nations.
Mais elle est finie, la Ligue des Nations, c'est le Portugal qui l'a remporté.
Oui, et vous savez, il y a d'autres équipes qui ont été classées, 2e, 10e, 15e, 20e, etc. Et là, vous regardez désormais le classement des équipes en question. Éliminez les équipes qui ont été qualifiées via l'Euro, et ensuite, vous voyez les équipes qui sont les mieux classées au final. Et bien, vous voyez ces équipes en question, et donc, à ce moment-là, ça donne et des demi-finales, et des finales de poules, tout simplement, parce que vous regardez le classement de la Ligue des Nations. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il pourrait y avoir en finale, dans l'une des poules, un Irlande du Nord-Irlande. Ce serait drôle, quand même, d'avoir ces deux équipes qui s'affrontent, et en sachant que si l'Irlande passe, l'Irlande sera automatiquement dans le groupe,
de
l'Angleterre.
Brexit, peut-être que ça sera plus qu'un seul pays.
Oui, c'est vrai aussi. Non, mais... Au final, vous regardez la Ligue des Nations, vous voyez les équipes qui sont encore en lice. C'est pas compliqué, faut juste se prendre un peu la tête. Je vous l'accorde.
C'est quand même une drôle de mayonnaise, hein. On parlait d'Ayoli tout à l'heure, mais...
Après, encore une fois, on a voulu donner de l'intérêt au qualif. Pour une fois, ça, objectivement... C'est plutôt une bonne chose de vouloir donner de l'intérêt même à un France-Albanie. Soyons honnêtes, France-Albanie, à la base, on s'en fiche royalement. Sauf que là, ça devient intéressant parce que il faut que les Français prennent 3 points. Sinon, au lieu d'être dans le chapeau 2, ils vont être dans le chapeau 3 et ils peuvent donc se prendre l'Angleterre et le Portugal.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que cet euro, c'est aussi parce qu'il va être un peu éclaté dans toute l'Europe que le tirage au sort va devoir être affiné. C'est ça, hein, si j'ai bien compris. C'est par exemple ceux qui joueront... quand on jouera, ça sera entre, par exemple, Rome et Bakou.
Je vais aller très vite, Annie, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Il y a 12 pays et donc 12 villes qui accueillent.
Vous retransmettez ça sur RMC?
Non. On ne sait pas encore qui retransmet d'ailleurs en France. Il y a 12 villes et 12 pays donc, qui accueillent ces matchs-là. Parmi les équipes qualifiées, on a par exemple l'Italie, on a l'Angleterre, on a l'Allemagne. On sait que ces équipes-là vont jouer à domicile. L'Italie va jouer 3 matchs à domicile. Ce qui est injuste d'ailleurs, vous allez me dire, pour d'autres équipes. La France qui se déplacera automatiquement, d'autres équipes, mais l'Italie joue au minimum 3 matchs. L'Angleterre, imaginez que l'Angleterre aille en finale. Possible, pourquoi pas.
Oui,
l'Angleterre va jouer 3 matchs à domicile au premier tour. La demi-finale est également à Wembley. La finale est à Wembley. L'Angleterre pourrait quasiment jouer un euro quasiment entièrement à Wembley aussi. Ceux qui sont les dindons de la farce, en partie...
C'est en France. Mais
c'est étudié pour.
Et les dindons de la farce, potentiellement la Belgique. La Belgique connaît déjà 2 de ses adversaires dans son groupe, puisque vous savez que la Russie et l'Ukraine ne peuvent pas s'affronter. Donc la Belgique... Vous le savez, l'Ukraine et la Russie ne peuvent pas s'affronter. Les raisons géopolitiques que l'on connaît. L'Ukraine ne peut pas tomber dans le groupe de la Russie. Conséquence, c'est la Belgique qui remplace la Russie. D'ailleurs, on a déjà un groupe, pas besoin de tirage. Belgique, Russie, Danemark,
je,
déjà.
Je propose aux supporters d'acheter des avions pour aller voir tous les matchs.
Ah, ça
je veux acheter un avion, je pense. On va se.
Le niveau carbone de cette euro va être colossal.
Faudra encourager la Hongrie parce que c'est vrai que c'est Hongrois hier en pleurs sur le terrain du pays de Galles. Ça faisait quand même triste au cœur. C'est la fin de ce Radio Foot. Merci mille fois, François David, d'être venu jusqu'à notre studio. Revenez bientôt et à demain.
Priorité santé. Caroline Paré.